Et comme chaque mardi, c'est l'heure de retrouver le rendez-vous du libraire avec aujourd'hui Philippe Bernadou, comme d'habitude. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et Nadège Loublié de
Bonjour.
La Femme Renard. On est ravis de vous revoir au coin du libraire.
Et oui, je sais que je me fais assez rare, mais on vient quand on peut, on vient. Il n'y a pas de...
Alors,
on est ravis de le faire.
Merci d'être là pour nous donner quelques tuyaux de lecture. Et Philippe, comme chaque début de mois, eh bien, c'est vous qui nous présentez l'auteur du mois.
L'auteur du mois, je vais donner l'impression de déroger à cette règle, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un chanteur, le chanteur du mois. Mais c'est un chanteur qui s'est voulu avant tout poète et qui l'a été magnifiquement. Et c'est bien sûr en quoi il a toute sa place ici. Vladimir Vysotsky, puisqu'il s'agit de lui, il se définit lui-même ainsi, un poète, un compositeur, un acteur. Peut-être trouvera-t-on un mot nouveau dans le futur, pour l'instant il n'existe pas, dit-il. Sa vie est relativement courte, 42 ans, entre 1938 et 1980, sa vie s'inscrit dans les dernières années de l'URSS, et on aimerait croire que ses textes ont participé à la décomposition de l'Union soviétique, mais c'est peut-être prêter un trop grand pouvoir aux mots. C'est tout d'abord comme acteur qu'il s'est fait connaître, théâtre et cinéma, et qu'il s'est imposé par sa présence physique. La chanson, c'était après le spectacle pour les copains, jusqu'à ce que l'un d'eux l'enregistre sur un magnétophone à bande, les premiers magnétophones à bande fabriqués industriellement à Nurs, bande qui sera repiquée tant et plus, et qui diffusera ses chansons à grande échelle. Parce que, autant le régime soviétique lui interdit d'enregistrer ses disques, et attendra sa mort pour le tolérer très timidement, autant il est de son vivant une star auprès de toutes les couches de la société. Les ouvriers, les marins, les déportés du goulag, comme les plus intellectuels et les plus politisés. Son génie aura été cette capacité de se glisser dans leur peau et de prendre la parole à leur place sans que ça fasse trafiquer. En fait, prendre la parole, ou plutôt leur donner à tous la parole. De même, il est très vite célèbre internationalement, et particulièrement grâce à sa troisième épouse, une actrice française d'origine russe, qui lui ouvre les frontières de l'Europe et des Amériques. On aura reconnu Marina Vladi. Et bien sûr, le portrait de Vysotsky ne serait pas complet si on ne parlait pas de sa voix formidable. Ce baryton rocailleux, comme on le dénomme, qu'il prétend posséder depuis sa mue, depuis l'adolescence, mais que les phénoménales cuites qu'il prenait ont dû peaufiner et ont dû raviner. Il y a un proverbe qui dit qu'en Russie, il n'y a que les poteaux électriques qui ne boivent pas. En fait, la raison, c'est parce que les porcelaines, les isolants en porcelaine, sont placés trop haut pour qu'on les remplisse. Et Vysotsky, excessif en tout, l'a été aussi dans la boisson. Il est allé chercher au-delà de lui-même, dans l'alcool et la morphine aussi. Il est allé se chercher au-delà de lui-même et peut-être il a trouvé rien d'autre que sa mort prématurée. On va peut-être écouter un extrait, une idée de sa voix.
Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Ça arrache, hein. Et pour l'accompagnement, donc, on remarque une légère dissonance, c'est qu'il utilisait la guitare tzigane à cette corde. Mais il n'y a peut-être pas que ça qui faisait que ça dissonnait aussi. Rapidement, sans faire une explication de texte, La chasse au loup est un de ses textes les plus célèbres. C'est une allégorie, bien sûr. La chasse au loup se pratique dans la taïga. Des hommes font un cercle relié entre eux par des cordes qui portent des fanions rouges. Et, bien sûr, le cercle se rétrécit. Et curieusement, les loups ne franchissent jamais cette limite. Ils se laissent enfermer. Et la chanson de Vysotsky parle d'un loup qui est lui-même, qui dépassera ses fanions. qui ira contre le pouvoir soviétique. Alors Vitsotsky, il est d'après un sondage la deuxième personnalité préférée des Russes. Le premier, c'est Youri Gagarin. Donc le prochain auteur du mois, ce sera Youri Gagarin. Le déclic, parce que quand je vous parle d'un auteur comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans le monde de l'édition. C'est une biographie qui vient de sortir. Vladimir Vysotsky, un cri dans le ciel russe, aux éditions Transboréal, écrite par Yves Gauthier. Et curieusement, ça ce sont toujours les coïncidences qui me fascinent, les textes de Vysotsky ont été publiés en bilingue sous le titre Ballade. Et ça a été publié pas récemment, il y a quelques années, en 2003, pour dire qu'il y a un petit moment, mais on me l'a proposé en librairie en ce début d'année, alors que jusque-là, il était introuvable. Donc, Ballade de Vysotsky, c'est aux éditions Janus, et Vladimir Vysotsky, un cri dans le ciel russe, chez Transboréal, et on peut toujours lire Vladimir ou le vol arrêté de Marina Vladi chez Fayard, qui est un très beau texte.
Est-ce qu'on aura droit à un petit extrait de texte, ou pas du tout Allez, pourquoi pas.
Si vous voulez.
Comme ça. Bon, c'est une traduction, évidemment.
C'est une traduction.
Il n'a pas écrit en français. Hein. Il aurait pu.
Il possédait le français, mais très imparfaitement. Si bien qu'à un moment où il chantait dans la rue, il y a quelqu'un qui lui a dit « T'as vu, là, il y a marqué « Chantier interdit, t'as pas le droit de chanter ». Et du coup, il a remisé sa guitare pour dire qu'il avait encore des petits progrès à faire. Variation sur un thème de Zigane. Des feux jaunes dans mes songes, des râles dans mon sommeil. Oublie un peu ce qui te ronge, la nuit porte conseil. Mais au réveil, ça ne va pas, ce n'est pas l'allégresse. Soit qu'on fume à jeun, ou soit qu'on boive pour chasser l'ivresse. Une fois encore, encore beaucoup, 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 beaucoup de fois, encore une fois, qu'on boive pour chasser l'ivresse. Dans les bouges, vertes bouteilles, blanches serviettes de table, pour les pauvres diables, c'est merveille. J'y suis un oiseau en cage. Dans l'église, nuit et relent, non, à l'église ce n'est pas ça. Les diacres fument de l'encens, ça ne va pas du tout comme ça. Une fois encore, beaucoup, 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 beaucoup de fois, encore une fois, ça ne va pas du tout comme ça.
Merci.
Et le thème pris au hasard. Hein.
Ben voilà, ça parle de suite.
Oui.
De Vladimir Vysotsky. Vous écoutez CFM, c'est le rendez-vous du libraire comme chaque mardi. Et c'est au tour de Nadège l'oublié, de la femme renard, de nous présenter son coup de cœur.
Alors moi, je vais partir dans d'autres endroits aussi vastes. On va aller aux États-Unis, dans les grands espaces américains. Je vais vous parler de l'enfer de Church Street, de Jack Ingston, qui est sorti il y a très peu de temps aux éditions Galmester. Depuis le début de l'année, Galmester, maison donc d'édition spécialisée en littérature américaine des grands espaces, a lancé une nouvelle collection qui s'appelle Néo Noir. Cette Néo Noir donc veut se focaliser sur le roman noir, c'est-à-dire des textes pointant du doigt la face sombre de la société, des ou de l'individu, si l'on veut réduire en fait une littérature du pessimisme social. J'ai choisi de vous parler du second titre de la collection Néo Noir. Ce roman commence avec la voix, dès le premier chapitre, d'un homme qui s'apprête à braquer un automobiliste sur un parking d'une station-service isolée. Il choisit sa victime, la braque avec son revolver, lui demande de monter dans le véhicule et de démarrer. Et puis, sur la route, un rapport de force s'installe. Le conducteur n'obéit pas aux instructions et accélère jusqu'à aller dangereusement vite. Menace d'un accident mortel si le braqueur tire, et alors il inverse complètement la situation. Le petit truand ne sait pas qu'il est tombé sur Geoffrey Webb, qui va, dès le second chapitre, prendre la parole, et l'auteur lui laisse alors la narration. Geoffrey Webb domine tout le roman, tout du long. On entre donc dans son histoire, qui est une longue confession contre laquelle il est prêt à laisser les 3 000 $ qu'il a sur lui. Le lecteur n'est alors qu'au début de ses surprises, car en plus de cette situation plus qu'étonnante, l'histoire de Geoffrey Webb est une succession de circonstances et de décisions de plus en plus douteuses. Nous sommes enclins, nous lecteurs, à suivre et comprendre le ton innocent de Geoffrey Webb lorsqu'il relate la façon dont il s'impose dans une communauté à la tête d'une église baptiste, puis tout aussi involontairement, entre guillemets, la façon dont il se retrouve l'amant d'une jeune adolescente de la communauté alors qu'il tient un rôle religieux. Et on se laisse embarqué dans son histoire, en le comprenant, en le voyant plutôt comme victime de son destin. Mais les mauvaises décisions se succèdent, on assiste au dérapage qui le font s'enfoncer dans un engrenage implacable. Ce roman est au cœur de la logique tordue, voire maladive de l'âme humaine. Le lecteur se voit embarqué sur une pente glissante, dangereuse, et pourtant nous sommes bizarrement remplis de compassion pour ce personnage. C'est un texte et aussi une collection, donc Néo-Noir de Galmester, à découvrir et à suivre de très très près.
L'enfer de Church Street. Merci Nadège. Dans le rendez-vous du libraire, ce qui est intéressant aussi chaque semaine, c'est que on peut avoir vos agendas aux uns et aux autres. Alors qu'est-ce qui se passe dans vos librairies ?
Eh bien oui, on commence dans pas longtemps, à 19h aujourd'hui même. Et ça se passe pas dans nos librairies, ça se passe à la Petite Comédie, mais avec la participation de la librairie de Loche. Maurice Petit lit Jacques Lacarrière, donc hommage rendu. L'entrée est payante, vous vous renseignez sur le site de l'Allemand.
Je crois que c'est 5 euros.
8 euros, pardon. Sur réservation. Sur le site librairiemontauban.fr, pardon.
Nadège ?
Et nous, le 4 juin, nous recevons, dans le cadre du festival Place aux Nouvelles, nous recevons Anna de Sandre pour Le Parapluie Rouge aux éditions Inuit.
Je rappelle que le festival Place aux Nouvelles, c'est en septembre et c'est un festival dédié aux nouvelles qui se passe à Lauzerte, sur place des Cornières.
Ce sera le premier week-end de septembre.
Philippe, que se passe-t-il le 4 juin ?
C'est le même jour, même heure, il faudra se partager. Il y a une rencontre, alors ce coup-ci c'est à la mémo, avec Charles Chetel, qui a écrit un très beau livre sur le jazz à Toulouse et dans la région de Toulouse qui s'appelle « Deux briques et deux jazz ». Ce livre vient d'être réédité, il existait déjà une dizaine d'années, réédité, remise à jour. Donc, rencontre à la mémo, jeudi à 19h. Et il y a encore une dernière chose. C'est le 6, le rendez-vous mensuel à la librairie Maurice Beau, la librairie Beau Livre, Place Nationale, avec Philippe Grimont qui vous diagnostiquera vos livres anciens.
Si vous avez raté tout partie de ce que vous ont rapporté aujourd'hui Philippe Bernadou de la librairie de Loche, ou Nadège l'oubliait, de la librairie La Femme Renard, eh bien vous pouvez retrouver tout ça sur le site librairiemontauban.fr. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur cfmradio.fr. également. Redonnez-nous avant de partir, s'il vous plaît, les références des ouvrages présentés.
Alors, une biographie de Vladimir Vysotsky, Un cri dans le ciel russe, par Yves Gauthier aux éditions Transboréal, et les poèmes sous le titre de Ballade de Vysotsky aussi aux éditions Janus.
Nadège ?
Et moi j'ai parlé donc de L'Enfer de Church Street de Jack Hingson, paru aux éditions Galmester en néo-noir.
Merci, à la semaine prochaine.
À bientôt.
À bientôt.